Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des médias et de leur rôle durant l'affaire Dreyfus. À la fin du 19e siècle, la France se remet encore de la défaite contre la Prusse et se cherche une stabilité sous la Troisième République. Le nationalisme grimpe, l'antisémitisme aussi, et l'armée est considérée comme un pilier sacré de la nation. C'est dans ce climat tendu qu'éclate l'affaire Dreyfus en 1894, quand le capitaine Alfred Dreyfus, officier juif, est accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne. Condamné et déporté, il devient malgré lui le centre d'une fracture nationale. À la même époque, la presse connaît un essor énorme, les journaux à grand tirage se multiplient, les opinions s'opposent et la concurrence pousse à des prises de position de plus en plus tranchées. Les médias se transforment en acteurs politiques à part entière. Ils ne se contentent plus de rapporter les faits, ils mobilisent, influencent et attisent les passions. L'affaire devient alors un terrain de bataille entre une presse anti-Dreyfusarde qui défend l'armée et diffuse des préjugés antisémites et une presse qui dénonce l'injustice, notamment après le retentissement du J'accuse de Zola. Très vite, ce qui n'était qu'un dossier judiciaire se change en crise nationale. L'opinion publique se polarise, s'enflamme, se radicalise presque au rythme des unes de journaux. L'affaire Dreyfus devient ainsi un miroir de la France de l'époque, révélant ses fractures profondes et la puissance nouvelle des médias sur la vie politique. La question qui se pose alors est simple, mais décisive pour comprendre l'ampleur du conflit. Comment, durant l'affaire Dreyfus, les médias et l'opinion publique se sont-ils mutuellement alimentés pour transformer un fait judiciaire en sujet de tension nationale ?
On constate une influence profonde des médias sur l'opinion publique dans l'affaire Dreyfus. Tout d'abord, après la révélation de la culpabilité du général Esterhazy et de l'innocence de Dreyfus par le général Picard, expliqué dans le journal Le Figaro en novembre 1897 par Zola, la presse se divise en deux camps. Les Dreyfusards, c'est-à-dire des journaux comme Le Journal, à 450 000 exemplaires vendus par jour, étant pour la révision du procès de Dreyfus de 1894, et les anti-Dreyfusards, comme La Libre Parole, à 300 000 exemplaires quotidiens, journaux conservateurs qui sont pour l'armée et contre Dreyfus. Ces journaux mobilisent et amplifient grandement la division de l'opinion publique. Également, l'article de presse « J'accuse » d'Émile Zola, à la une du journal L'Aurore, le 13 janvier 1898, bouleverse l'opinion publique. Il se vend à 300 000 exemplaires et aboutit à une poursuite en justice de Zola par le gouvernement. À la suite de celle-ci, il témoigne « Tout semble contre moi. Les journaux à grand tirage, l'opinion publique qu'ils ont empoisonnée », dénonçant ainsi la manipulation de l'opinion publique par la presse.
Mais on constate également que l'opinion publique influence les médias, et notamment la presse. Durant l'affaire Dreyfus, 100 000 articles ont été publiés. Au commencement de cette affaire, l'opinion publique était surtout orientée contre Dreyfus, de par l'évidence de la culpabilité de ce dernier. En effet, le 1er novembre 1894, le quotidien antisémite La Libre Parole fait de cette discrimination son cheval de bataille. Il met l'affaire au grand jour, mais l'oriente de son point de vue. 6 semaines plus tard se tient le procès du capitaine Dreyfus, au cours duquel il est condamné à la déportation, à l'exil perpétuel et à la destitution de son grade. Il est dégradé publiquement le 5 janvier 1895. À ce moment, Alfred Dreyfus est le coupable idéal, donc la majorité de l'opinion publique est contre lui. Pourtant, en mars 1896, une lettre adressée au commandant Esterhazy en provenance d'Allemagne est retrouvée. Cela prouve la culpabilité du véritable coupable. Malgré cela, le 14 septembre 1896, l'éclair publie toutes les preuves, qui sont fausses, puisqu'elles ont été fournies par l'état-major, de la culpabilité de Dreyfus. Un mois plus tard, le Matin publie la copie du bordereau que le faux coupable aurait envoyé. En comparant les écritures, cela rajoute des preuves sur le dos du capitaine accusé. Peu après, l'affaire prend un tournant majeur. En effet, l'avocat de Dreyfus, Bernard Lazare, convainc le vice-président du Sénat, Auguste Scherer-Kestner, que le véritable coupable est Esterhazy et que Dreyfus doit être innocenté. Le vice-président du Sénat dévoile à Émile Zola les preuves nouvellement acquises. Ce dernier rédige alors 3 articles publiés respectivement les 25 novembre, 1er et 5 décembre 1897 dans Le Figaro. Il clame la culpabilité de Esterhazy et l'innocence de Dreyfus. Il dit aussi « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie « J'accuse » de son vrai nom, lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République. Dans cet argumentaire détaillé, il accuse nominalement l'ensemble des protagonistes militaires. Mais cet article fait un véritable scandale, un procès déclaré à son auteur qui s'exile en Angleterre. Grâce à la démonstration d'innocence de Dreyfus par son avocat, l'opinion publique va radicalement changer de camp. Durant toute l'affaire Dreyfus, la presse a popularisé l'opinion publique, qui n'a cessé de changer de camp.
En conclusion, l'opinion publique est influencée par les médias qui retransmettent la vie des intellectuels sans filtre. Mais ces médias, essentiellement représentés par la presse, sont aussi influencés par l'opinion publique et suivent cette dernière pour faire plus de ventes. L'affaire Dreyfus est bien plus qu'une simple affaire judiciaire. Elle se transforme très vite en sujet de tension qui sépare la France en deux. La presse a largement participé à cette séparation. Mais les médias ont-ils toujours autant d'influence sur l'opinion publique de nos jours ?